Alors, nous sommes ici, Parshat Yitro, chapitre Yutet Arevi, Bachodesh HaShelishi, le troisième mois. Le Tzed Bnei Israël Me'eretz Mitzrayim, après que les Juifs ont quitté Eretz Mitzrayim, Bayom Hazé, ce jour, c'est-à-dire quoi ce jour? Le premier jour, Bayom Hazé, ce jour, il n'est pas marqué quel jour, mais c'est-à-dire le jour que le mois a commencé, comme ça la Gemara interprète. Ce jour-là, bah, où ils sont arrivés Midbar Sinaï. Pourquoi la Torah est si exacte dans le lieu de Midbar Sinaï, d'où ils ont sorti de Mitzrayim, la date, le troisième mois, et quel jour, le Rosh Chodesh. Pourquoi la Torah elle est tellement médaillée? Parce que ça, c'est lié sort de toute l'histoire juive et toutes les histoires goy. Chez nous, tout est médouillac. Ça, c'est les Icar. Le reste, chez les Goyim, toute leur religion, elle est née dans le brouillard. On ne sait pas qui, on ne sait pas où, on ne sait pas comment. C'est des élèves et des élèves, des élèves et des indirectement qui racontent des légendes rétroactivement. Où on fabrique rétroactivement des choses et on ne sait pas comment c'est venu. Et tout ce qui n'est pas exact donne de la place à tous les délires et à tout le mensonge. Et des bêtises, et de oui-oui dire, on dit, on dirait un truc, et des rêveries deviennent des vérités après 50 ans, après 100 ans, après 200 ans. Ça, c'est toutes les religions du monde. Et ça, c'est le havdil, la différence entre le mensonge et le vrai. Le vrai, c'est dit médouillac. On sait quel jour, quelle date, où ils sont sortis, qui sont les acteurs. Les juifs, des noms, des pères, des familles qu'on rencontre de génération après, de génération en génération, tout est raconté de façon exacte. Tout de suite, la Torah commence le troisième mois après la sortie de Béné Israël du pays d'Égypte. Ce jour-là, ils sont arrivés au désert du Sinaï. Tout est médouillac, l'histoire. Ça, il faut bien faire entrer ça dans la tête. La différence entre un yid, ma'amin, un yid, pas ma'amin, c'est que les deux, ils croient à la Torah. Mais les juifs croyants, ils croient que la Torah, c'est une histoire vraie. Et les juifs réformés, ils croient que la Torah, c'est une histoire inventée. La différence entre l'invention et la vérité historique. Ça, c'est la différence. Une vérité historique, elle engage. Et une vérité inventée n'engage pas. Tout ce qui est inventé est depuis l'origine mensonge. Et quand l'origine est mensonge, un menteur n'engage pas. Pourquoi les juifs réformés pensent que la Torah n'engage pas? Parce que pour eux, la Torah, elle est venue par des mensonges. Et un mensonge ne m'oblige pas. Et nous, la Torah est venue par des chemins vrais. Tous les lecteurs et tous les transmetteurs et toutes les écrits des saintes écritures, tout est vrai, émet la amito et la émet engage. Ça, c'est les yesod ha-yesodot. Vayisoum et Refidim, ils voyageaient de la ville de Refidim. Donc, Refidim, ça vient de quel mot? Raf. Raf, ça veut dire quoi? Rafé. Rafé, ça veut dire faiblesse. Refidim, la Gemara nous dit Rafé Yadayim, des mains faibles. Les Juifs, ils avaient à un certain moment les mains faibles, les actions faibles. Ils voyageaient de la ville Refidim, ça veut dire ils se sont renforcés. Ça veut dire ils sont devenus courageux, ils sont devenus actifs, forts. Pour recevoir la Torah, il faut recevoir dans un état de puissance. Pas un état de faiblesse et de paresse. Et de... La paresse n'a pas... On ne peut pas recevoir la Torah quand on est paresseux. Aïssou merefidim. Refidim, c'est aussi meroupad. Meroupad, ça veut dire quand on a un fauteuil qui est agréable pour s'asseoir dessus. Ça s'appelle... Comment dire un fauteuil qui est bien pour s'installer dedans? Meroupad, ça veut dire... des coussins confortables, meroupad. Ils ont voyagé de ce meroupad pour recevoir la Torah. On ne peut pas être assis sur un fauteuil. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rav Moshe Ben Gamliel, on ne pouvait pas étudier la Torah assis. Il fallait étudier la Torah debout. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rav Moshe Ben Gamliel, les Juifs, ils ont étudié debout. Pas assis. debout. C'est pile et plat haute. On ne peut même pas comprendre ça. Tout le monde était debout toute la journée. Les gens qui étaient du jour et nuit, ils étaient debout jour et nuit. On ne pouvait pas être assis. Pourquoi? Parce que la Torah, on a reçu Har Sinaï debout. Et quand on étudie, on doit s'imaginer qu'on est devant la Har Sinaï et on entend le feu et les flammes et les kolot ou brakim. Comme ça, on doit étudier. Alpidin, comme ça, on doit étudier la Torah dans une terreur, en entendant les voix d'Hachem. C'est comme ça qu'il faut étudier. Donc, il faut être debout. Mais chez nous, on nous a permis de s'asseoir. Vaïssou, ils voyageaient, mais Refidim, de cette situation de Refidim. Vaïavo, ils sont venus, Midbar Sinaï, dans les déserts du Sinaï. Mais on a déjà dit dans Pasuk Aleph qu'ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Pourquoi dans le Pasuk Bet, on répète qu'ils sont arrivés du Sinaï? Parce qu'on reprend, le Vaïssou, mais Refidim, qu'ils voyageaient, qu'on quittait Refidim. Et alors pourquoi la Torah n'a pas dit « Vaïssou Refidim » dans Pasuk Aleph? Il voyageait des Refidim. Parce que le Pasuk Aleph, c'est une espèce de titre. La parasha commence avec un titre. « Bachodesh HaShlishi, l'Etzen Israël, Meretz Yisrael, Biyomazeh, Barmit Bar Sinaï » Ça, c'est le titre de l'histoire. Nous sommes venus dans le Midbar Sinaï le premier jour de Sivan. Ça, c'est le titre. Après, on rentre dans les détails. « Vaïssou Refidim » ça, c'est un détail qu'on voyageait des Refidim. Vayavo Midbar Sinaï, Vayachanu Bamidbar, ils ont campé dans le désert. Vayichan Sham Israël Negadar, et le juif a campé en face de la montagne. Donc il y a deux fois le mot campé, une fois pluriel, une fois singulier. D'abord c'est marqué Vayachanu, ils ont campé. Donc on parle pluriel. Et après on reprend Vayichan, il a campé, singulier. Vayichan Sham Israël, avant c'est quoi? C'est les Bnei Israël, maintenant c'est Israël. Donc, Pasuk Aleph, Bachodesh HaShlishi, les sept Bnei Israël, ils étaient Bnei, les enfants Israël, et maintenant ils sont devenus Vayichan Sham Israël. Israël a campé. Alors, qu'est-ce que Rashi raconte? Une fois qu'ils étaient devant la Har Sinaï, ils sont devenus une personne. Dans tout leur voyage, ils étaient toujours séparés un de l'autre, donc c'est fait Bnei Israël, les enfants de Yaakov. Et maintenant, c'est une personne. Le Har Sinaï, c'est le seul moyen de créer l'unité dans le peuple juif. Tous les gens qui essayent de créer l'unité du peuple juif, en dehors de la Torah, ça ne va pas. On ne peut le créer que dans la Torah. Mais même dans la Torah, ce n'est pas forcément uni. Mais devant le Har Sinaï, c'est uni. Il y a la Torah, mais devant le Har Sinaï, c'est spécial. Devant le Har Sinaï, on est devenu une personne. Pourquoi? Tout égoïsme a disparu. C'est-à-dire, ce qui sépare une personne de l'autre, c'est l'égoïsme. Et devant la Har Sinaï, il n'y avait plus aucun égoïsme. Pourquoi? La Har Sinaï, on dit dans la Haggadah, si Dieu nous aurait sortis d'Égypte, il nous avait amenés devant la Har Sinaï, d'ailleurs, ça aurait été suffisant, même s'il n'avait pas donné la Torah. Le fait d'être devant la Har Sinaï et de voir une montagne qui crache du feu et des flammes et des kolot ou brakim et la shrina dessus, c'est un événement terrible qui brûle tout égoïsme. Et ça, c'est du merveille. Ça, c'est un moment de merveille. On a passé un moment de merveille devant la Har Sinaï. Avant encore Matan Torah, on était déjà émerveillés. Telle façon que Vayichan Sham Israël, déjà, ça crée une unité formidable. Vayichan Sham Israël. Mais Israël, c'est-à-dire Yaakov. On dirait que Yaakov Vino, il a assisté. Yaakov Vino a assisté. Vayichan Sham Israël. Neged Hahar. Pourquoi pas Yaakov? Pourquoi pas Avraham ou Yitzhak? Parce que Yaakov, on dit, c'est la Torah. Avraham, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Gvura. Et Yaakov, on dit, c'est Torah. Yaakov Avinu, il était présent. Il était présent au Matan Torah. Peut-être Yitzhak ne voulait pas venir, il avait un peu honte parce qu'Isaf, il a dit non. Abraham, il avait honte d'assister parce qu'Ishmael, il a dit non. Mais Yaakov pouvait être fier. Tous ses enfants, ils ont dit oui. Donc lui, il était présent. Vayichan Sham Israël, Neged Har. C'est quoi Neged? Non, on traduit Neged en face. Mais le mot « neged » veut dire aussi « contre ». Ah, pourquoi cette expression contre la montagne? Pourquoi contre? Comme s'il y a une opposition entre la montagne et les Juifs. Il y a quelque chose qui s'oppose parce qu'ils étaient terrorisés. Ils avaient peur de la montagne. Il y a quelque chose qui s'oppose. Ils s'opposaient à la montagne. Pourquoi? Ils ont campé en opposition à la montagne.
Une crainte.
Il y avait une crainte. À quel moment ils craignaient? À quel moment ils tremblaient? Le jour de Matan Torah ou même avant? Le jour de Matan Torah, c'était terrible. La montagne, il tremblait. Il tremblait. C'était le jour de Matan Torah. Avant, ça ne tremblait pas. Mais le nuage était déjà avant. La Shrina était déjà avant. Mais pas de tremblement. Mais la Shrina était là avant. Neged Ha'ar, en face de la montagne. Qu'est-ce que ça exprime, Neged?
Qu'une femme est Kenegedo pour la femme. En fait, c'est le mariage, c'est un peu la coupa entre Israël, ce qu'on appelle Israël. Il y a Kajbo Israël, c'est comme dire une coupa. Et on dit que le mari avec la femme, c'est Kenegedo.
Et c'est le Ezer Kenegedo, une aide contre lui. Une femme est une aide et elle est aussi contre l'homme. Pourquoi on dit que la femme elle est contre l'homme? Et alors la montagne, il y a aussi montagne qui va y Akadej Baruchou. Et c'est le Ezer Kenegdo. On dit Akadej Baruchou, c'est le Khatan. Et le peuple juif, c'est la Kala. Akadej Baruchou, il descend sur la montagne. Et les juifs, c'est la Kala. Et la Kala, elle est Neged. Elle est Neged. Et c'est le Ezer Kenegdo. Le peuple juif, il est Keneged. Keneged. Mais Keneged Hashem. Contre, le mot contre n'est pas peut-être pas obligé d'être en désaccord. Contre n'est pas obligé d'être en désaccord. Contre, ça veut dire on est face à face. On joue pas le même rôle. Keneged, une opposition, la Havdil. Une opposition, c'est pas toujours quelqu'un qui casse les pieds. Il faut garder l'équilibre, la droite et la gauche. La droite est en face de la gauche. Un homme, il voyage, un avion, il a une aile à droite, une aile à gauche. Ils ne sont pas en opposition, le contraire. S'il n'y a qu'à à droite, il n'y a qu'une aile à droite et un moteur à droite, l'avion va tomber. Il faut qu'il y ait une aile à gauche et il faut un moteur à gauche. C'est parce qu'en face, il y a la même chose, donc ça garde l'équilibre. Alors le peuple, un homme a besoin, pour être équilibré, il a besoin d'une femme en face de lui. Si la femme veut venir trop chez lui, c'est comme l'avion, tout le monde se met à droite, ça va couler. On coule, il faut que la femme fasse l'équilibre. Le clan Israël, il est en face de la montagne. Pourquoi? Parce que Hachem Kaviachol ne peut pas seul, il ne veut pas seul gérer le monde. Il a besoin d'un peuple juif. Il a besoin d'un peuple juif. Comme ça, il a créé les règles, que les juifs sont en face de lui. Ou Moshe Ala El Ha'elokim. Et Moshe monte vers Dieu. Donc il est monté, ça c'est lundi matin. Dimanche soir, ils n'ont rien fait. Les juifs, ils étaient fatigués, ils ont campé. Comme ça dit le Gemara. Alors lundi matin, Moshe Ala Elokim, il est toujours monté tôt le matin. Moshe Ala El Ha'elokim. Elokim ici, ça c'est la Shrina qui est sur la montagne. Vayikra Elav Hashem. Et Hashem, il l'appelait Minahar de la montagne. Alors lui, il monte vers Elokim, mais c'est Yud Kevavki qui l'appelle. Ça veut dire quoi? Hashem, c'est Midat Hesed. Ça c'est un cadeau qu'Hashem il a fait de parler avec lui. Vayikra Eilav Hashem Minahar de la montagne, il est mort en 10 ans. Ko Tomar le Bet Yaakov. Ko. C'est-à-dire quoi? Ko. Ainsi. Ko, ça veut dire pile. Pile comme ça. Ko. Ko, ça veut dire exact. Exact. Ko. Ko Tomar le Bet Yaakov. Comme ça, tu diras à la maison de Yaakov. Mais Taged, et tu raconteras l'Ibné Israël ou l'Ibné Israël. Alors, Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Bet Yaakov, c'est les femmes. Les femmes, c'est une maison. Maison, ça veut dire intérieur. Qui dit maison, dit des murs, dit un toit. Veut dire caché, protégé. Ça, ça représente une femme. Une femme, sa place est à la maison. Kotomar le Bet Yaakov. Mais Taged, et tu racontes l'Ivnei Israël. Ça, c'est les hommes. Alors, il dit le même discours aux hommes, il dit le même discours aux femmes, mais Rachid dit non. Tomar, c'est doux. Et Taged, c'est dur. Aux femmes, il utilisait un langage doux. Et aux hommes, il utilise un langage dur. Mais c'est les mêmes paroles. Et pourtant, pour les femmes, c'était doux. Pour les hommes, c'était dur. Pourquoi? Rachid raconte aux hommes, il racontait les punitions. Et aux femmes, il racontait les récompenses. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais dans Chumash, on ne parle ni des punitions, et ni de... C'est les mêmes paroles. Donc il y a ici une partie qui est cachée. Il y a une partie qui est cachée ici, dans ce discours. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Mais Taged, ça vient de quel mot le mot Taged?
La Haggadah. La guide.
Oui, la Haggadah. Mais Rashi traduit le mot guide. C'est quoi guide? C'est un air. C'est de quoi un air? Quelque chose qui est dur. Quand on fait un fouet, on fabrique avec les nerfs d'un bœuf. On prend les nerfs d'un bœuf et on fabrique un fouet. Taguette, c'est-à-dire un fouet. Aux hommes, tu leur dis clairement qu'il s'agit d'un fouet, des choses dures. Atem reitem, vous avez vu. Asher asite les Mitzrayim, ce que j'ai fait aux Égyptiens. C'est-à-dire quoi? Que j'ai détruit l'Égypte parce qu'ils vous ont fait du mal. Donc, d'ici, vous pouvez déduire que quoi? Que je vous chéris. Vaessa est très mal canfé, chéri. Je vous ai porté sur les ailes des aigles. Donc un aigle, il met les enfants sur les ailes. Pas en dessous, mais dessus. Comme ça, les gens qui tirent les flèches ne peuvent pas atteindre les enfants. Donc Hachem Kavayachol, il est prêt qu'on tire des flèches sur lui pour protéger les juifs. Quel est le sens de ce chazal? Le nuage, le kissé, l'anané à Kavot ont reçu les flèches des Égyptiens pour protéger les juifs. Donc, Abayachol Akadéoch accepte les flèches. Ça se traduit comment? Ça veut dire quoi? Quand un homme dit à l'autre, moi j'accepte les flèches qu'on tire sur toi, sur moi. Donc, lui il est blessé. C'est-à-dire, l'homme il accepte, l'homme qui se jette devant quelqu'un pour le protéger, il accepte d'être blessé, lui.
À la place de l'autre.
À la place de l'autre. Maintenant, si on dit ici qu'Hachem, il accepte de prendre les flèches, c'est-à-dire qu'Hachem, il accepte qu'on porte atteinte à lui. Alors, qu'est-ce que c'est dire que les Égyptiens, ils ont porté atteinte à lui? Est-ce qu'on peut apporter atteinte à Hachem? On peut se moquer. On peut ridiculiser. C'est-à-dire, des fois, Hachem, il prend sur lui la honte pour protéger les Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il a laissé détruire le Beth Amikdash. C'est marqué, comme ça, les Juifs n'étaient pas obligés d'être détruits. Parce que Hachem, il a pris la honte sur lui. Ça veut dire, les gens, ils disent, voilà, la maison de Dieu est détruite. Donc, Hachem ne peut pas intervenir. Hachem, il souffre de cette honte. Mais il le fait pour que... pour que la Midat Adin ne détruit pas les Juifs. Maintenant, ici, à la sortie d'Égypte, eux, ils tirent des flèches. Ils voulaient tirer des flèches sur les Juifs. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Ils mettent la Anané à Kavod. Et la Anané à Kavod, il prend les flèches. Ça veut dire quoi, ça? En quoi ça faisait honte à Hachem? Est-ce que les Égyptiens, ils ont vu que les nuages, il y a la Shrina dedans? Est-ce qu'ils voyaient ça?
Je ne crois pas qu'ils voyaient ça.
Les Juifs, c'est sûr qu'ils ont vu Vayeru Kvod Hashem Be'anan. Vine Kvod Hashem Nira Be'anan. Le texte dit toujours, l'honneur d'Hachem était visible dans le nuage. Donc c'était un nuage que les Juifs ont vu, que la Shrina est dedans. Mais est-ce que les Égyptiens, ils ont vu ça?
Je comprends.
Peut-être les Égyptiens aussi, ils ont vu que c'est un nuage très spécial. Et ils ont tiré, ils ont vu que c'est les flèches, ils touchent les nuages. Ils ont dit, ça y est, on a touché Dieu, comme Titus. Titus, il est rentré dans la cour des Kodeshim, il a pris l'épée et il a coupé la parochette. Il y a du sang qui est sorti, il a dit, ça y est, je viens de tuer Kevayachol. Comme ça, Gemara nous dit. Donc, Titus, il avait une image qu'il a pu porter atteinte au Boré Olam. Et peut-être les paro aussi, les Égyptiens, quand ils ont tiré des flèches sur les nuages, ils ont dit, Dieu, c'est qu'il est faible, il se laisse, on peut lui tirer des flèches, on peut le blesser. On a tiré des flèches et ça a atteint les nuages. Et pourtant, ce Dieu dans ce nuage, il n'est pas capable de les protéger. Mais Hachem, il était d'accord que les gens, ils lui font honte.
Sur lui, le...
Ici, l'aigle aussi, qu'est-ce que dit l'aigle? Ils mettent les enfants dessus. Comme ça, les gens qui tirent, l'aigle, il reçoit les flèches. Hachem, il prend les flèches sur lui. Vavi etrem elai, et je vous ai amené chez moi. Un aigle, qu'est-ce que ça représente un aigle? Il y a quatre animaux. Le chef des oiseaux, c'est l'aigle. Le chef des bêtes domestiques, c'est le taureau. Le chef des animaux sauvages, c'est le lion. Et le chef de tous les êtres humains, les êtres vivants, c'est l'homme. Ce sont les quatre images qui sont dans la Maaseh Merkava. C'est quatre catégories des anges qui portent le char céleste. Et le Nesher, c'est un des quatre. Et je vous ai porté sur les ailes, Kanfei. Ça veut dire quoi, Kanfei exactement?
C'est les ailes.
Kanaf, ça veut dire aile. Kanaf, ça veut dire extrémité. Kanfei bigdeihem, l'extrémité des habits. On met les tzitzit, kanaf. Kanaf, c'est kanfei haaretz. Des kanfei haaretz, les extrémités de la terre. La chose la plus éloignée du milieu. Et on a quatre kanfot, on a un habit avec quatre coins. Les quatre coins, c'est-à-dire les endroits les plus éloignés. Je vous ai porté al-kanfei, sur les extrémités, nesharim. Nesher. Sur les extrémités, ça veut dire quoi sur les extrémités? Le nesher, c'est le symbole de quoi? De la pitié. Que nesher yahir kino al-gozolav yirachev. Comme ça, il dit le pasuk dans Azino. Que nesher yahir kino. Comme un aigle qui réveille son nid. Al-Gozalav Yirachef. Rashi dit que le Nesher, c'est le symbole de cet animal qui a pitié. Je vous ai porté sur les extrémités de la pitié. Ça veut dire qu'Hachem, il a utilisé l'extrême pitié pour porter les Juifs. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y avait des sortes de Juifs qui étaient des tzadikim et des Juifs qui n'étaient pas des grands tzadikim. Qui ne méritait pas Mitzad Midat Adin de sortir. Mais Hachem, il a utilisé Midat Rachamim, et l'extrême Rachamim. Il a utilisé l'extrême Rachamim pour amener les Juifs chez lui. Ve'ata, et maintenant. Quand on dit maintenant, c'est-à-dire c'est une coupure avec ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire il y avait une époque jusqu'à maintenant. À partir de maintenant, il y a un nouveau monde. Il y a une coupure complète. Vata, et maintenant, on va complètement changer. Im shamoa tishmeru bekoli, si vous écoutez ma voix. Shamoa tishmeru, il y a pluriel. Shamoa, si vous écoutez, vous écoutez ma voix. Il faut plusieurs fois écouter, on ne comprend pas une fois, c'est faux. Les gens, ils croient qu'ils ont une fois écouté les discours de la Torah. Non, on comprend, il faut répéter beaucoup de fois. Shamoa tishmeru bekoli. Bekoli. Ushmartem et beriti. Vous allez respecter mon alliance. Alliance, c'est la promesse mutuelle. Vous allez respecter la promesse mutuelle. Vous allez faire un brit. Vite, me segula. Alors vous serez pour moi segula, un trésor chéri. Segula, c'est un trésor chéri, là, j'ai traduit. Segula, mikol ha'amim, de toutes les nations. Il dit qu'on arrête parce que toute la terre m'appartient, pas seulement le Proche-Orient. Vous allez être pour moi un trésor de toutes les nations, car la terre entière m'appartient, donc vous n'êtes pas les seuls au monde. Je suis patron de tout, et quand même parmi tout ce qui existe au monde, vous allez être un trésor chéri. C'est de quoi un trésor chéri? C'est-à-dire Hashgacha Pratit. Ici, c'est-à-dire une surveillance particulière. Quand un homme il a un trésor, alors il les protège avec une clé, une deuxième clé, un code, parce qu'on ne veut pas se faire voler. Quand les voleurs viennent, la première des choses que l'homme y fait, il protège son trésor. Donc vous allez être mon trésor. Donc ici, il y a dedans une promesse d'une protection rapprochée. Je vais mettre l'œil pour vous protéger. Les juifs qui ne sont pas très religieux, ils ne savent même pas combien de cadeaux ils reçoivent d'Hachem tous les jours. Ils parlent toute la journée d'antisémitisme. Les juifs, moins qu'ils sont religieux, plus ils parlent de l'antisémitisme. Pourquoi? Parce qu'ils ressentent partout l'agression. Mais en vérité, il faut voir tous les jours la protection d'Hachem. Il y a une protection spéciale, les juifs, ils ont protégé très spécial, comme un trésor, ce goût-là. Pourquoi le mot ce goût-là? C'est quoi la racine du mot ce goût-là? Segol, ce goulat melachim. Rachid dit des diamants, des choses chères, mais c'est quoi la racine du mot segol? Segol, c'est quoi segol? Gal, c'est une vague. Ce goût-là. C'est quoi un ségol? C'est trois points. On écrit trois. Non, ségol, c'est trois points.
Ça, c'est cheval.
Un tséré, c'est deux points.
Ouais, c'est cheval.
Cheval, c'est deux. Non, ségol, c'est trois points. Vous voulez dire pour moi ce goût-là? Une ce goût-là. Aujourd'hui, on utilise le mot ce goût-là pour dire.
Un remède.
Un remède, hein, du gris-gris.
Ouais.
Une segula, ça vient de quel mot? Voilà, j'ai une segula. C'est marqué dans la Gemara ou c'est les gens qui ont inventé ce mot? Segula, la Gemara dit.
La Gemara.
La segula existe dans la Gemara?
Je sais pas.
Pour un enfant qu'on lui a cassé le bras, qu'il faut payer, quand quelqu'un casse le bras d'un enfant, il doit payer. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait l'enfant avec l'argent qu'il reçoit? Il y a c'est le segula, comme ça dit le Gemara, qu'il fera une segula. C'est quoi la segula? Un Sefer Torah, là, comme on a dit. Ou un palmier, quelque chose de cher, qu'il achète un trésor qui reste. Segula, c'est un trésor qui reste. Je ne sais pas pourquoi les gens ils utilisent le mot segula comme gris-gris. L'item dit segula.
Parce que quand Israël va bien, quand Am Segula il va bien, tout le monde il va bien. C'est ça que c'est un. C'est que, en fait, nous on fait rejaillir aussi le bien-être chez les autres. Si nous on est bien, les autres aussi sont bien. Peut-être c'est ça, on propage en fait. On est une Segula pour les autres peuples. Am Segula. Je sais pas.
Ve'atem, et vous, Tiyoli, vous soyez pour moi Mamlechet Kohanim, une royauté des prêtres. C'est-à-dire un royaume. Et ce royaume est composé que par des prêtres. Que par des prêtres. C'est-à-dire le Kohen, c'est le serviteur de Dieu pour vis-à-vis de Lévi et d'Israël. Kohen, Lévi, Israël. Et les Juifs vis-à-vis des Goyim, ils ont le prénat Kohen. comme les Juifs, ils ont un Cohen et les Bnei Israël, comme ça le monde a des simples personnes et des Kohanim. Nous sommes les Kohanim pour les Goyim. Nous sommes le Kohen. Le Kohen, c'est le serviteur d'Hachem. Mamlechet Kohanim. Vegoy Kadosh. Un peuple qui est Kadosh. Ça, c'est la proposition. Eile Hadvarim. Voici des paroles à Cher Tedaver, Rabbi Israël, qui te parle aux Juifs. Mais où Rashi a trouvé ici des punitions? Rashi dit, Vetaged levnei Israël, tu vas avertir les Juifs, tu vas raconter aux Juifs, Rashi raconte, Onshim et Diktukim. Il faut dire aux Juifs des punitions et des détails. Alors, où se marque ici dans ce texte? Dans ce texte, on ne voit pas tellement où il y a des punitions dedans. Si on transgresse, ça veut dire le fait qu'on dit, nous allons être un malachet konim goy kadosh, ça sous-entend que si on ne le fait pas, on est puni. Ça n'est pas marqué dans ce texte. Alors, voilà. Eile hadvarim, voici les paroles, asher tedaber, el bnei Israël, que tu dis, Rashi raconte, eile hadvarim, ni plus ni moins. Il ne faut pas ajouter. Eile hadvarim, voici les paroles, il ne faut pas ajouter, pas enlever. C'est-à-dire, chaque mot est mesuré ici. Chaque mot est exact. Il n'y a pas à peu près. Il ne faut pas ajouter sur cette proposition. Il ne faut pas diminuer sur cette proposition. Pourquoi? La proposition de vente. Le bon Dieu, il veut offrir la Torah. Il veut vendre la Torah, entre guillemets. Alors, il fait une proposition de vente. Cette proposition doit être exacte. Il ne faut pas ajouter ni diminuer. Pourquoi? Parce que quand tu promets trop ou tu demandes trop, après les gens ils disent c'était pas ça dans la première proposition. Il y a des gens qui trichent, ils veulent vendre une maison mais ils trichent. Au début ils disent c'est une super maison et truc et machin. Et après ils disent non bon en fin de compte c'est une fois que l'entre il est déjà rentré dedans dans le et voilà, je vous vends une maison, préparez l'argent. Après, dit bon, c'est vrai, l'électricité n'est pas très bien, ça, c'est pas très bien. Et comme l'autre, il est déjà entré dedans.
Bon, c'est une cabane.
Alors, un chidouch, ouais, un super chidouch et tout. Et une fois que l'autre est dedans, il découvre, il y a ça et ça. Mais comme on a déjà commencé, on ne veut plus arrêter. Alors, il ne faut pas comme ça. Ici, il faut que tout est dedans. Dans cette proposition, tout il se cache dedans. Tout ce qui vient après, il se trouve dans ces paroles. Mais ces paroles, ils doivent être, vous avez vu, qu'est-ce que j'ai fait en Égypte. Donc, vous savez que je suis gentil avec vous. Donc, je voudrais vous ajouter de la gentillesse. Et vous, vous devez être un peuple saint. Vous avez vu que j'étais gentil avec vous. Vous avez vu que je vous aime beaucoup. Maintenant, je voudrais encore plus créer avec vous des rapports avantageux. Vous allez être un peuple, un trésor, mais le paiement, ce sera que vous allez être un royaume des prêtres, un peuple qui est saint. Voilà, ça c'est le projet. Le reste, ce sont des détails. Les détails, on verra plus tard. Les détails. Pour le moment, est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe? Ça, c'est la déclaration du principe.
Là, il n'a encore rien dit, là. Avant Matan Torah,
ça c'est le lundi, ça c'est la première, la semaine de Matan Torah. Ils sont arrivés dimanche à Sinaï, Shabbat après, c'était Matan Torah. Maintenant, nous sommes dans les préparatifs. Toute cette semaine, c'était les négociations avant Matan Torah. Et la proposition, le fond de la proposition, c'est que vous avez vu que je suis gentil. Je voudrais vous ajouter de la gentillesse et vous devez me payer. Ça, c'est le Brit. Ça, c'est l'alliance que je vous propose. Et là, il se trouve tout dedans. Là, il se trouve tout dedans. Va y avoir Moshe. Moshe est venu. Ça, c'est lundi après-midi. Quand Moshe est descendu de la montagne. Va y avoir Moshe. Moshe est venu. Va yikra les iknei ha'am. Il a appelé les vieux du peuple, les sages du peuple. Il les a appelés. Vayasem lifnehem, il a déposé devant eux et kol hadvarim aile, toutes ces paroles, asher tzevu Hashem, que Dieu lui a ordonné. Donc il a appelé le peuple. Et qu'est-ce qu'il y avait? Non, il a appelé les Zkinim. Et qui a répondu? Vayanu kol ha'am yachdav. Et tout le peuple a répondu yachdav ensemble. Voyons, il disait kol asher diber Hashem na'ase. Tout ce que Dieu a parlé, nous allons faire. Alors pourquoi le peuple répond? Moshe n'a pas parlé avec le peuple. Il a parlé avec les vieux. Comment le peuple peut répondre? Mais il n'a pas réuni le peuple. Vayavo Moshe, il est venu, il a appelé les Ikneham. Il a appelé les vieux. Comment le peuple peut répondre? Alors quoi? Il manque ici encore un épisode. Moshe, il a parlé aux Zkenim. Les Zkenim, ils ont réuni chacun ses adhérents. Et le peuple a répondu. Ou est-ce que c'est Moshe qui parlait au peuple?
Je pense qu'il manque un passage. Non?
Quoi?
Je pense qu'au bout, qu'il manque peut-être quelque chose. Une partie.
Que la Torah, elle a sauté, que tu dois comprendre du texte. Tu dois comprendre du texte que les Zkenim, ils ont invité les Juifs. Ou le peuple a vu que les Zkenim sont appelés chez Moshe, ils sont tous venus automatiques. Comment tu peux t'imaginer que quoi que les Zkenim sont appelés, Moshe descend de la montagne, hein? Il appelle les Zkenim, et bien les Juifs sont au courant. Aïe, tu as entendu que Moshe, il a appelé les sages autour de lui. Moi aussi, je vais écouter. Ils sont tous venus derrière écouter. Ils savaient de quoi il s'agit, ils ne savaient pas. Mais Moshe, il est monté. Tout le peuple a répondu. Est-ce qu'il voyait déjà dans Moshe? Est-ce que Moshe avait déjà la lumière sur son visage? Est-ce qu'à ce moment-là, Moshe avait déjà la lumière ou c'était seulement à la fin des 40 ans, 40 jours? Je pense que c'était qu'à la fin des 40 jours. Après, c'est marqué. Donc, il dit ça à la fin des 40 jours, quand il est descendu, il avait la lumière sur son visage.
Il avait à la naissance aussi. Hein?
Quoi?
Il avait à la naissance aussi.
Une lumière. Il rayonnait, mais après les 40 jours, il rayonnait. Est-ce qu'il rayonnait maintenant déjà? Je ne sais pas. Alors, tout ce que Dieu il a dit, nous allons faire. Vayashov, Vayashov Moshe et divrei ha'am el Hashem. Moshe a rendu les paroles du peuple vers Dieu. Donc ça, c'est mardi matin. Mardi matin, Moshe est remonté. C'est lundi soir, les Juifs, ils ont dit tout ce que Dieu il a demandé, nous allons faire. Mardi matin, Moshe, il a rendu donc le rapport à Hachem. Oui, Omer Hachem et Moshe, maintenant Dieu dit à Moshe, ça c'est mardi matin. Hine vasi anochi moi. Ba elecha, je viens chez toi. Be'av he'anan. Dans l'épaisseur du nuage. Je viens chez toi dans l'épaisseur du nuage, Ba'avur Yishmaham, afin que le peuple entendra Bedaberi Imach quand je parle avec toi. Donc Hachem, il n'a pas parlé avec le peuple, il a parlé avec Moshe et le peuple a entendu. Comment Hachem parle avec Moshe? C'est-à-dire, quand il dit Anochi Hachem Elokecha, tous les Aseret HaDibrot sont marqués singuliers. Moi, je suis ton Dieu, et ne tue pas, ne vole pas. Ce n'est pas marqué ne volez pas, ne tuez pas. C'est marqué ne vole pas, ne tue pas, parce qu'Hachem parle avec Moshe. Bavu Yishma'am, afin que le peuple y l'entende, Bedabri Imach, quand je parle avec toi. Et aussi en toi, ils feront confiance éternelle. Les Juifs font confiance éternelle du fait que le peuple a entendu quand je parle avec toi. Et pourquoi on dit Vegam Becha, aussi en toi? Pas seulement en moi. Pas seulement moi, je veux parler. Parce que si Hachem il s'adresse au peuple juif, sans intermédiaire de Moshe, dans ce cas-là, les Juifs, ils croiront à Dieu. Mais ils ne croiront pas forcément que Moshe, c'est le serviteur. Mais Moshe, mais Hachem, il voulait que les Juifs font confiance après à Moshe. Parce que le reste de la Torah.
Oui.
Alors ça, c'est Moshe qui a donné le reste de la Torah, tous les détails. Dans les 40 jours qui étaient sur la Sinaï, qu'il a entendu tous les détails de la Torah. Les Juifs, ils ont entendu qu'à la Serata des Brottes. Donc il fallait bien quoi? Qu'il y a une confiance totale du peuple juif en Moshe. Donc Hachem, il a dit, je parle à toi. Hachem, il a dit, Moshe, Moshe, je te parle, tu m'entends, tu es prêt. Les Juifs, ils entendent comment Hachem prononce le mot Moshe. Hachem, il dit à Moshe, voilà, tu es prêt, voilà, maintenant je te parle. Et les Juifs, ils entendent. Hachem, il dit, voilà, Moshe, ne vole pas, voilà, Moshe, ne tue pas, voilà, Moshe, tu sais que je t'ai sorti d'Égypte. Hachem, il parle du monde de Moshe, et les Juifs, ils ont entendu ça.
Mais donc, on aurait peut-être pu croire qu'il y avait, que ça ne s'adressait qu'à Moshe. Et les autres, quand il dit à Moshe, ne vole pas, mais ça veut dire que le peuple, il ne vole pas.
Et comme ça, en effet, ils pensent tous les voleurs juifs. Ils pensent en effet comme ça. Ah bon Dieu, il a demandé à Moshe de ne pas voler, il ne m'a pas parlé à moi, c'est vrai, c'est une bonne excuse de tous les pécheurs. Qui me dit que les juifs, Béhémet, ils ne doivent pas voler, d'où on sait ça? Tout on sait que les juifs n'ont pas le droit de voler. Tout on sait que les juifs, ils doivent faire la Shabbat, étant donné que Hachem parle à Moshe.
Avant, le peuple, il dit que tout ce que Hachem dit, il le fera. Donc, ils acceptent. Avant même qu'il parle, de suivre la parole de Hachem.
Le peuple a dit, tout ce que Dieu parlera, même ce qui ne parle pas à nous, même ce qui parle à Moshe, du moment qu'il donne un programme à Moshe, Dieu veut donner un programme à Moshe. Et avant, il a déjà dit, Ushmartem et Briti, vous allez respecter mon alliance. Donc les Juifs, ils savaient que la proposition de la Torah, c'est une Torah qui concerne tous les Juifs. Je vous donne un programme à tous les Juifs, mais je parle avec Moshe, mais je vous fais entendre ce que j'ai dit à Moshe, parce que ce sont des paroles que vous devez comprendre et que ça vous concerne aussi. Où il a dit, bah si, le pshat il est comme ça. Il est marqué que Moshe il a répété toutes les paroles de Dieu aux Juifs. Après, il est marqué dans le texte. Hachem, il a dit, je te dis à toi, Moshe, tout ce que je demande, et toi, tu dois transmettre ces paroles aux Juifs. Après, Moshe, il a répété ça tout aux Juifs. Pourquoi ben, mettre Moshe, il a répété tout? Après, c'est marqué Moshe répété tout aux Juifs. Pourquoi il a répété aux Juifs? Étant donné qu'ils ont entendu direct. En effet, parce qu'Hachem, pour le moment, il a adressé la parole à Moshe. Et il a dit à Moshe, ce que je t'ai ordonné à toi, je veux que tu l'ordonnes aux Juifs aussi. Donc il était obligé de répéter aux Juifs. Alors pourquoi les Juifs, ils assistaient au fait qu'Hachem, il parle avec Moshe? Si, de toute façon, Moshe dit après aux Juifs les ordres, pourquoi il fallait que quoi, que les Juifs, ils entendent qu'Hachem, il l'ordonne à Moshe? C'est pour qu'ils ont confiance en Moshe, pour qu'ils comprennent que quoi, que Moshe Béhémet, c'est le serviteur de Dieu. Et alors, donc, alors pourquoi il fallait, dans ce qu'il n'a pas parlé, alors il n'a qu'à parler directement à tous les Juifs. Alors il n'a qu'à parler directement à tous les Juifs. Pourquoi il veut parler qu'à Moshe? Pour que les Juifs, ils remarquent la différence entre eux et Moshe. Pour qu'il voit qu'Hachem s'adresse à Moshe, que Moshe c'est le serviteur. Comme le reste de la Torah, les Juifs n'entendent pas directement de la bouche d'Hachem, mais que par travers Moshe, Moshe Tzivolano, Torah Tzivolano Moshe, ils ne voulaient pas entendre le reste d'Hachem, ils avaient trop peur. Donc ils ont besoin d'une confiance totale en Moshe. Donc la première partie, la Serata des Brottes, ils assistaient qu'Hachem il ordonne à Moshe. Hachem, il ordonne à Moshe. Mais pourquoi il ordonne à Moshe? Il n'a qu'à ordonner à tout, tous les juifs. C'est peut-être pour faire une différence entre Moshe et les juifs, pour que Moshe comprenne que lui, il est le premier qui doit écouter, pour exclure tous ces rabbinim qui parlent aux autres, mais pas eux-mêmes. Ça, c'est du classique, du classique. Tu dis un discours à toute la communauté. Vous ne devez pas voler, vous ne devez pas tuer. Ah, ceux qui parlent lui-même. Alors, Hachem, il a dit d'abord, Moshe, d'abord je parle à toi. D'abord, il faut que toi, tu assimiles bien ce que je veux. Après, tu vas parler aux Juifs. Quelle est la différence des premiers deux et le reste? Ça, c'est une vieille question. C'est quoi exactement? Le texte, il dit que les Juifs, ils ont entendu tous les 10 paroles. Ils ont entendu tous les 10 paroles. Et de l'autre côté, on dit qu'ils ont entendu que les premiers deux. Ça, c'est une grande question. Le Medrash dit, « Achadibre, les Kimstam, les Ushamati, que les Juifs, ils ont entendu deux paroles de Dieu. » Et dans le Chumash, c'est marqué que les Juifs, ils ont entendu tous les 10 paroles de Dieu. Alors, Pshat Pashut, il est que les premiers deux paroles, ils ont compris jusqu'au bout. Et les autres 8, il fallait que Moshe révise avec eux pour bien faire comprendre bien le sens. Et les premiers deux, ils ont compris jusqu'au bout. Les Choras, c'est comme ça, la Pshat. Mais on verra encore. Alors, Vayomer Hashem. Alors, je répète pas sous tête. Vayomer Hashem à Moshe. Hine vasi, anochi moi. Ba elecha, je viens chez toi. Je viens à ta rencontre. Ba'av et Anan. Dans l'épaisseur du nuage. Ba'avour, afin. Yishma'am, le peuple entendra. Bedaberi imarkon, je parle avec toi. Moi, je serai caché dans l'épaisseur du nuage pour qu'Hachem ne brûle pas le monde entier, c'est-à-dire le feu, la flamme de la Shrina. Hakadosh Baruch Hu, il est descendu dans une colonne de flamme. Mais avec cette flamme, il peut brûler le monde entier. Il faut donc créer une espèce de filtre. Il faut créer une protection autour pour que ça ne brûle pas. Donc ça, c'est le nuage. Un nuage très très épais pour filtrer, et je vais être dedans et je parle afin que le peuple entende que je parle avec toi. Vegam becha, aussi en toi yaminu, ils croiront le olam éternellement. Donc personne peut enlever l'émouna des juifs au Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est la personne à qui on fait confiance totale éternellement. Et vegam, pourquoi c'est marqué vegam? Pas seulement en moi ils vont croire, même en toi Moshe. Mais la Gemara nous dit que le mot Vegam inclut tous les autres prophètes. Les Juifs font confiance à tous les prophètes. Vegam, Becha, le Gam, c'est ce qui est additionné, parce que tout ce que les prophètes ont dit est inclus dans les paroles de Moshe. Donc, de la même façon que les Juifs font confiance à Moshe, ils font confiance à tous les prophètes juifs. Les prophètes juifs, les Juifs, ils font confiance, ils savent que c'est des vrais prophètes. Vegam, Becha, Ya'aminu, ils croiront le Olam éternellement. Ils croiront, c'est-à-dire quoi? Ils croiront en toi. Ils croiront tes paroles. Ils croiront que tu es un homme vrai. Ils croiront que ce que toi tu leur as transmis, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Je ne comprends pas comment les Juifs réformés, comment ils lèrent ces psukim. Ils lèrent pas. Ils jouent peut-être football à la place d'étudier. Les psukim que d'étudier, on croit entièrement aux paroles de Moshe. Qu'Hachem il a parlé ces paroles à Moshe. C'est terrible. Ces juifs qui s'imaginent autrement, et les juifs y croiront en toi éternellement. C'est-à-dire que ce juif qui ne croit pas, je ne sais même pas s'il est juif. Peut-être il n'est pas juif. Les juifs y croiront en toi éternellement. Donc les juifs qui ne croient pas au Moshe, peut-être il n'est pas juif, il n'était pas hors Sinaï. Comme ça, la Rambam, il dit qu'un juif qui ne croit pas aux paroles de Moshe, c'est un juif qui n'était pas hors Sinaï. Comme ça, il dit la Rambam. Il n'était pas hors Sinaï. Parce que ceux qui étaient hors Sinaï ne peuvent jamais nier Moshe. Quand c'est possible. Comme ça, il dit le Rambam, Kol Miche, ceux qui confirment Torah Moshe, le Amdou Avotav al Har Sinai, ses parents n'étaient pas Har Sinai. Et pourtant, des fois, il y a deux frères. Un croit, l'autre ne croit pas. Alors, un frère, ses parents, ils étaient Har Sinai. L'autre, ses parents n'étaient pas Har Sinai. C'était les mêmes parents. Donc, les parents ici, ce n'est pas les parents physiques. Ses parents, c'est-à-dire le Gilgul au début. C'est sa Neshama, parce qu'on dit tous les Neshamot, ils étaient Har Sinai. Et ceux qui disent Har Sinaï ne peut pas nier la Torah. On ne peut pas nier. Ceux qui nient, ce Neshama n'était pas là. Et ce Neshama n'était pas là. Hein? Il regardait les matchs pendant Matan Torah. Il avait son iPhone. Il regardait un match de football. Quoi? וגם בך ימינו לעולם, ויגד משה דברי עמי לשם. Et Moshe racontait les paroles du peuple à Dieu. Ça c'est quand? Ça c'est ויאמר השם אל משה. Ça c'est mardi matin. Hashem il a dit, mardi matin Hashem il a dit, voilà, je vais me présenter devant le peuple. Mardi après-midi, Moshe il a raconté ça au peuple. Le peuple dit, d'accord, Dieu veut nous parler, on est prêt que Dieu nous parle, il n'y a pas de problème. Ça c'est mardi soir. Et après, Vayaged Moshe divrei amel Hashem, c'est mercredi matin. Mercredi matin, Moshe il est remonté sur la Sinaï, il a donné le rapport à Dieu, voilà, le peuple il est prêt à entendre ta voix. Voyons, Omer Hashem el Moshe, maintenant mercredi matin, Dieu dit à Moshe, lech, va el ha'am, vers le peuple, tu dois descendre encore une fois. Vekidashtam, tu vas les sanctifier, hayom, aujourd'hui, ou machar, et demain. Tu vas les sanctifier aujourd'hui et demain.
Ça veut dire quoi?
Sanctifier.
Ils vont se séparer de leur femme, ils vont...
Alors, séparer de la femme, alors, ça c'est plus tard.
Ah.
Donc, d'abord, kidashtem, kidashtam, kidashtam, rachidi, yachinu atzmam, préparer. Il faut psychologiquement se préparer, à ce grand événement. Aujourd'hui c'est mercredi, machar, demain c'est jeudi. Donc, à première vue, c'est quoi? C'est vendredi matin Torah. Et d'après l'autre, pshat, en vérité, matin Torah n'était que Shabbat. Et qui d'achetam, vous allez vous sanctifier hayom aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est déjà midi, c'est déjà mercredi midi, il n'y a pas toute une journée. Donc aujourd'hui ça veut dire jeudi, et demain ça veut dire vendredi. Et vous allez laver vos habits. Il faut des habits propres. Et vous soyez prêts, l'ayom hachelishi, pour le troisième jour. Donc d'après un pshat c'est le vendredi, d'après un pshat c'est Shabbat.
C'est quoi le... La version la plus répandue.
Non, le Maasé, c'était que Shabbat. C'est Machlok Rabbi Yossi Rabbanan. Si Hachem, il a promis Shabbat ou il a promis vendredi, mais dans le Shabbat qu'il a promis vendredi, Moshe, il a demandé après, attends encore un jour. Les Juifs ne sont pas encore prêts entièrement. Il faut attendre encore 24 heures. Hachem, il a attendu 24 heures. Soyez prêts pour le troisième jour. Qui va Yom HaShelishi? Car le troisième jour... Yered Hashem, Dieu descendra les Einei Kolham devant les yeux de tout le peuple, al Har Sinai, sur la montagne de Sinai. Vigbalta et Ha'am. Pourquoi on dit toujours le troisième jour? Le troisième jour, c'est quoi le mot 3? Au début, déjà, il a dit le troisième mois. Maintenant, il te dit le troisième jour. C'est quoi le chiffre 3?
Chazaka.
On dit qu'il y avait trois enfants, à Myriam, à Aaron et Moshe. On dit que le peuple juif est composé en trois, Kohen, Lévi, Israël. On dit que les saintes écritures sont partagées en trois, Torah, Lévi'im, Ketuvim. La Gemara nous rehausse ça, il y a un phénomène de trois dans la Torah. Avram, Yitzhak et Yaakov, il y a un phénomène de trois. Ça représente quoi? La droite, la gauche et les milieux. Il y a dans la Torah un phénomène de droite, de gauche, de milieu.
C'est le
Ségol,
trois aussi.
Les Ségol, c'est aussi trois. Trois. Qu'est-ce que c'est trois? La droite, on dit toujours c'est Chesed. La gauche, on dit toujours c'est Gvura. Et la Torah, c'est l'équilibre entre les deux extrêmes. La bonté et la rigueur. La droite, c'est la bonté d'Hachem. La gauche, c'est la rigueur d'Hachem. Et tout ce qui se passe dans le monde, elle est toujours composée par les deux extrêmes, par de la bonté divine et par la rigueur divine. Et entre les deux, il y a l'équilibre, la vérité entre les deux. Et ça, c'est la Torah. Elle crée l'équilibre entre la bonté et la rigueur. Elle est composée par deux éléments, mais la Torah fait un équilibre. Ça, c'est le phénomène du 3. Bon, moi je ne connais pas ça. Il y a des secrets dans la mathématique. Mashiach, il vient peut-être même avant, je ne sais pas. Il va nous dévoiler les secrets de la mathématique avec la Torah. Il y a beaucoup de secrets dedans. Vihikbalta et ha'am, ça vive les mots. Vihikbalta, et tu vas limiter. Gvul. Gvul veut dire frontière.
Il faut.
Gibalta, oui, une barrière. Gibalta et Ta'am, tu vas mettre une limite au peuple Saviv, autour. Autour de quoi? Autour de la montagne. Autour de la montagne, tu vas mettre une limite pour le peuple des morts en disant Ishameru lachem, gardez-vous, faites attention à l'autre bahar de monter sur la montagne. C'est-à-dire, il ne faut pas que vous montez. Vous n'avez pas le droit de toucher le katseihu, le coin. Le coin le plus éloigné de la montagne, vous n'avez pas le droit de toucher. Alors, il y a un endroit où la montagne commence. Donc, ça veut dire quoi? Ça, c'est la terre. Et à un moment, je m'imagine, ça monte comme ça. Je m'imagine comme ça. Alors, là où il arrive en bas, alors ici, on met une barrière. Et dès que ça commence à monter, ça veut dire la montagne commence. Vous n'avez pas le droit de toucher en haut, vous n'avez même pas le droit de toucher en bas, la katsebe kotseo, le coin ici en bas. Si on touche, c'est mortel. Il était chargé électriquement. Il y avait des rayons. Il y avait là-bas une électricité de 300 millions de volts. Ceux qui touchent ici meurent. Il y avait du feu. Ils étaient chargés d'électricité. Une goa bakatse. Il ne faut pas toucher en bas. Kol hanogea bahar mot yumat. Ceux qui touchent la montagne, ils mourront. Quelle est la logique? Quelle est la logique qu'il ne fallait pas toucher? Pourquoi il fallait cette limite? Il ne fallait pas que les Juifs ils montent sur la montagne. Pourquoi? Ça représente quoi? Parce que c'est trop terrible. Dieu, il est tellement... Tu ne dois pas le droit d'avoir la chutzpah. Se rapprocher, c'est une chutzpah. C'est oser, c'est une insulte. C'est une manque de... C'est une manque de... De pudeur, c'est un orgueil. Qu'est-ce que tu t'es rapproché? C'est le roi du monde, c'est le Boré Olam, il est dessus. Il donne sa sainte aura, ses lois. Toi, tu es un beau rien, qu'est-ce que tu t'es rapproché?
C'est pas aussi un manque d'émouna, c'est-à-dire qu'il faut être plus près pour être sûr.
Il faut être plus près pour être plus sûr. C'est un yann de manque de pudeur. C'est-à-dire, il est tellement grand Hachem, il faut avec crainte. Ça se mange avec la crainte, ça, il faut s'éloigner de l'événement. Tu n'as pas le droit de te familiariser. Se familiariser avec un sujet dégrade le sujet. Quelque chose de très très grand, on n'a pas le droit d'être familiarisé. Moshe, il est monté parce que lui, il avait le droit de se familiariser. Parce que ça, c'est l'homme parfait qui méritait d'être le confident d'Hachem. Lui était le confident d'Hachem. Ça représente quoi aujourd'hui? Manque de pudeur. Tu vas perdre le respect. On trouve mille choses comme ça dans la Torah. On a parlé de montrer Kodesh et Kodeshim. Noir, il a vu son père sans habit. Alors, c'est un manque de pudeur. C'est ton père. Tu n'as pas le droit de te familiariser avec le corps de ton père. Ma grand-mère, vous connaissez ma grand-mère?
Non.
Vous connaissez pas ma grand-mère? Moi, j'ai ma grand-mère, elle s'appelait la Madame Rebecca. Et ma grand-mère, quand elle a rencontré son mari, comment il s'appelait mon grand-père? Isaac. J'ai ma grand-père Isaac. Quand elle a vu Yitzhak, elle a glissé de le chameau. Elle a demandé qui c'est cet homme tellement impressionnant. Eliezer, il a dit, c'est mon patron, c'est Yitzhak. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le voile et elle se voilait. Pourquoi elle se voilait? Par pudeur devant cette sadique, ce Yitzhak. La Kedusha était tellement grand. Moi, je vais devenir l'épouse de cet homme tellement grand. Elle se cachait. La Kedusha, c'est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de supérieur. Et c'est, il faut séparer ce qui est supérieur de ce qui est chol, de ce qui est simple, de ce qui est basse. L'exceptionnel, il est séparé de ce qui est simple. Une nouvelle Porsche, la nouvelle Porsche. On ne la garde pas avec les voitures de...
Il va se faire rayer, sinon.
Quoi?
Il va se
Elle est dans le salon des voitures. Il y a le salon des voitures, il y a toutes les voitures. Après, il y a une voiture, le Rolls, un nouvel Rolls du président américain. Elle est exposée sur une tribune spéciale. On s'éloigne, ça se regarde de loin.
Il y a des barrières autour pour que les gens ne touchent pas.
Il y a des barrières autour que les gens ne touchent pas. Comme le sous-fétiche de Picsou, vous connaissez le sous-fétiche de Picsou?
Bien sûr, comme la Joconde, vous voyez une barrière et
une vitre. La Joconde, elle est quoi? Il y a une barrière?
Il y a une vitre, il y a des barrières.
Il y a une vitre?
Non?
Ah
oui,
et les autres, non, les autres tableaux. Qu'est-ce pour cela? Elle est trop chachouve. Parce que les gens, ils voulaient toucher. Et c'est quelque chose de spécial de l'avoir?
Je ne sais pas, je
ne
crois pas.
C'est une œuvre très spéciale. Qui est-ce qu'il a fait? Michel-Ange, qui a fait ça?
Léonard de Vinci.
Léonard de Vinci. Et c'est une œuvre spéciale.
Il y a quelque chose, mais bon.
Tu as vu?
Oui, je la connais.
Non, tu as vu avec les yeux de l'homme, le vrai?
Oui, j'ai vu
les yeux
de l'homme. Oui, elle est bon. C'est moins impressionnant que ce qu'on croit, en fait, parce qu'elle n'est pas très grande. Mais bon, elle est dans une salle, au milieu d'une salle, avec des barrières, des plein de gens autour. Donc.
S'ils arrivent sur la montagne, il y a la Neshama, elle va sortir du corps, ils vont mourir. C'est pas pour question de mort, pour aussi peut-être manque de respect, mais peut-être que le fait que la Neshama soit trop proche, elle va être aspirée par la source.
Oh, comme ça, elle est marquée. Comme la Neshama de l'homme, elle vient de Kisya Kavod, elle va être comme un aimant. Quand on s'approche trop, elle va être prise. Comme un aimant, et la Neshama va sortir du corps. Elle va rejoindre, l'excitation sera tellement grande que la Neshama va sortir du corps. L'otiga boyad, qu'on ne touche pas avec la main, qui s'accol yisakel, car on sera lapidé, c'est-à-dire quoi? Il y aura une pierre qui va se détacher de la montagne, il va tomber. Et cette pierre va tomber directement sur la personne qui a touché. O yaro yiyare. Ou la personne qui monte, il sera rejeté vers le bas. Im behema im ish. Que ce sera un animal, que ce sera un homme.
Même les animaux n'ont pas le droit.
Lo yichye, il ne vivra pas. Même les animaux, il faut éloigner. Pourquoi? En quoi ça gêne le bon Dieu qu'il y a quelques moutons qui vont monter brouter? C'est-à-dire que du moment que peut-être si le brebis va monter, le patron il va courir derrière. Donc il y a des malins qui disent que moi je vais monter sur la montagne, mais j'ai peur, donc je vais envoyer d'abord mon mouton et après je vais chercher le mouton. Ou le fait que les animaux ils vont brouter, ça casse le sérieux, ça devient un terrain de pâturage, ça va casser le moment de concentration parce qu'il fallait être, ils étaient concentrés. Quand Hachem il a parlé l'arsina, il a fait les flammes, c'est un moment de grande concentration. Et si les vaches et les bœufs, ils vont monter mou, ça va devenir une ferme. Mais c'est ma jour de Matan Torah, c'est pas une ferme là-bas. Même qu'il y avait peut-être des herbes super bien, fraîches et tout, ça poussait super bien. Mais c'est pas une ferme. Vous enlevez les animaux d'ici. Même les animaux, ils vont mourir. Bimshocha yovel, quand on va tirer le yovel, le chauffard, le son du chauffard, ça veut dire à la fin de Matan Torah, il y aura un chauffard qui va sonner, et ce sera le signe de quoi? De la fin. Heimaya alubahar, à ce moment-là, eux, ils peuvent monter sur la montagne. Une fois que la Shrina est partie, va yered, Moshe Minahar. Moi, j'ai descendu de la montagne, on est mercredi à midi, mercredi après-midi. Moi, j'ai descendu de la montagne, va yekadesh et am, il a sanctifié le peuple. Va yekhabesu simlotan, ils ont lavé leurs habits. Donc, ils ont trompé les habits au mikvé aussi. Va yomer el am, ils disent au peuple, heyu nechonim lishloshet yamim. Soyez prêts, l'ishloshet yamim. Alors, c'est quoi la traduction, l'ishloshet yamim? L'ishloshet, pour un triplement des jours. Donc, c'est mercredi après-midi, il leur parle. Ça veut dire que vous allez vous préparer donc jeudi, vous allez vous préparer donc vendredi, et vous allez être prêt pour le troisième jour. Soit le pshat, il est, vous allez vous préparer trois jours mercredi après-midi, vous avez encore un jour de préparation, encore jeudi, après vendredi. Et après, il arrive le grand jour. Soyez prêts pour un triple de jours. Altigeshu el isha, ne vous rapprochez pas vers une femme. Alors le Chora Hashem n'a pas dit à Moshe, ne vous rapprochez pas vers une femme. Ça n'est pas marqué avant. Mais comme il a dit, Vikidashtam, tu vas les sanctifier. Donc Moshe l'a compris, la sanctification, ça veut dire de ne pas s'approcher à une femme. Altigeshu el isha. Vahi, et ce fut, Bayom HaShelishi, le troisième jour. Donc ça, c'est le Shabbat. Biot HaBoker, le matin. Shabbat matin, Vahi, et ce fut. Kolot, des bruits. Ouvrakim, et des éclairs. Non, Barakim, c'est quoi Barak? Barak, c'est des éclairs. Donc il y avait des éclairs. Ve'anan kaved alahar, un nuage lourd sur la montagne. Le col chauffard, un son de chauffard, chazak, fort, mais oh, terriblement fort le chauffard. Combien de décibels? Combien de décibels? Mais une fois j'ai entendu que quand on parle, ça fait des ondes. Les ondes, ils vont jusqu'au où? Les ondes.
Ça atténue doucement, elles vont.
Hein?
Ça atténue, elles vont.
Une fois, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, il ne s'éteignait pas. Il continue éternellement. Vous parlez, ça fait comme ça, ça va jusqu'à 1000 millions de kilomètres, ça continue toujours. Si maintenant je vais envoyer un satellite qui va aller plus vite que les ondes, ils vont se mettre derrière, ils peuvent le récupérer. Une fois, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai. On peut récupérer des choses qu'on a dites.
Là, on s'entend. Maintenant, mettez-vous de la côté de la rue, on parle de la même force, on ne s'entend pas, il faut parler plus fort. Donc, il y a une atténuation. Donc, à un moment donné, c'est plus perspective. C'est plus
perspective. Ça veut dire peut-être qu'il y a du monde.
L'oreille n'entend plus. Peut-être l'oreille humaine n'entend plus. Mais si je vais utiliser un outil, est-ce que ça s'arrête entièrement ou pas? Quoi, que ça continue?
Oui, ça veut dire que.
Pourquoi? Parce que vous êtes physicien.
Toute notre vie, on peut toujours tout récupérer.
Comme ça, j'ai entendu. Je ne sais pas si c'est vrai physiquement. Ou même, si c'est vrai, dans l'hypothèse que c'est vrai. Donc, on peut envoyer une espèce de satellite. On peut envoyer une espèce de satellite qui va aller jusqu'au bout et va entendre. Donc, on va peut-être un jour envoyer, on va récupérer ces ondes-là.
C'est possible.
Et le monde entier va entendre « Anochi Hashem Azim Moshe, Anochi Hashem Elokecha ».
C'est très très fort, effectivement, peut-être qu'on peut encore peut-être retrouver dans le bois.
Parce que c'est marqué que ces paroles sont restées éternelles. C'est marqué après dans le pasuk « éternel », c'est-à-dire la parole d'Hashem est restée éternelle. Alors là, Hashem, « Dvarcha Nitzav Bashamayim », que les paroles d'Hachem, ce n'était pas comme nos paroles, c'est des paroles qui continuent toujours. Et un jour, on va trouver la machine et va nous transformer, on va l'entendre avec nos oreilles et on va tous entendre notre Hachem et la Kecha. Et maintenant, je vais ajouter encore quelque chose, peut-être toute la vision, peut-être pas seulement auditif, peut-être même visuel, on va mettre ça sur...
On peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, c'est bon.
Ils n'ont pas des machines aujourd'hui, des choses plus vite que la lumière. Ils ont. Ils arrivent aujourd'hui avec des ondes de voir dans le truc pas plus vite que la lumière.
Non, mais par exemple, aujourd'hui, ils sont capables de voir, en regardant une étoile, la lumière qu'on voit d'une étoile, c'est la lumière qu'il y a eu il y a quelques milliers d'années déjà. On est capable de remonter. Ils arrivent aujourd'hui à deviner un peu à quoi ça ressemblait en regardant la lumière des étoiles.
On va voir le matin de Torah.
C'est une merveille.
Il y en a un qui dit qu'on va voir le Briat HaOlam.
Création du monde.
C'est un film science-fiction. C'est possible que oui. On dit que les Juifs, ils ont assisté au Brit Olam B'Shas Matan Torah quand Hachem il a dit « Moi, je suis Dieu ». Les Juifs, ils ont vu la création du monde. Ils ont vu Hachem et dit « Moi, je suis Dieu ». Alors les Juifs, ils ont vu comment le monde a été créé. Ils ont tout vu. Ils ont percé tout le, comme ça, machin, un pasouk. Et Chazal, ils ont percé la nature, ils ont tout vu. Alors, Vahi, Bayom HaShelishi, Biyota Boker, c'était le matin. Vahi, et ce fut Kolot, Deva ou Brakim, des éclairs, Vahanan Kaved Alarv, Kol Shofar, et le voix du Shofar, Chazak, Forme Ot, Vahyecherad, Kol Ha'am Asher Mamachane. Et tout le peuple qui était dans le camp, Vahyecherad, ils ont paniqué. Ils tremblaient, Chared, ils avaient peur. Ils avaient terriblement peur. Devant Hachem, on a peur. Pourquoi on a peur devant Hachem? Parce que c'est la vérité absolue et l'homme, c'est le mensonge absolu. L'homme, c'est la vérité absolue, la puissance absolue et l'homme, c'est un vaurien, l'homme. L'homme, il est rien, mais c'est des bourréolames. Et ça remplit de peur. Et c'est un peur kiffant. C'est un kiff d'avoir ce peur. De voir la vérité, c'est quelque chose d'exceptionnellement, c'est merveilleux de voir la vérité. C'est quoi la peur? La peur, c'est quoi? Que l'homme, il croit qu'il va disparaître. C'est quoi la peur? On est incapable de se protéger, et on est livré à la merci des forces qui nous sont supérieures, et on ne peut rien faire contre. On a peur. C'est quelle espèce de peur? C'est la peur de disparaître ou la peur devant la vérité? C'est l'émerveillement devant la vérité. Vayecherat kol ha'am asher b'machaneh, vayotze Moshe et ha'am, et Moshe il a sorti et ha'am, le peuple, likrat ha'elokim, à la rencontre de Dieu. Mina machane du camp, vayit yatsevu betachtit ha'ar, ils se sont installés en bas de la montagne.
D'accord, il y avait le camp, il y avait la montagne, et ils sont sortis du camp.
Voilà.
Pourquoi il faut
pour se rapprocher. Pour se rapprocher, pour arriver jusqu'en bas de la montagne.
D'accord.
Parce que dans le camp, il y a des bébés qui pleurent, il y a.
Mais les bébés aussi sont partis. Donc
les bébés
ils
aussi sont venus.
Ça semble évident.
Les bébés étaient aussi présents.
Peut-être que.
Var Sinai Ashan Kulo. Et la montagne du Sinai Ashan, il fumait entièrement. Il fumait entièrement. Mipenei du Pve Asher Yarada Alav Hashem Baesh. Parce que Dieu, il est descendu dans le feu. Vayal Ashano Keshena Kifshan. Et son fumée est monté comme le fumée d'un four. Comme une locomotive. Vayecherat kol ha'ar ma'ot, toute la montagne tremblait. La montagne tremblait. Hachan kulo. En vérité, Rashi dit beaucoup plus que le fumée. Seulement la Torah parle un langage humain.
C'est-à-dire plus que la fumée.
C'est beaucoup plus puissant. Seulement la Torah n'a pas des mots pour exprimer la vérité. Donc elle prend des exemples que nous sommes familiers. C'est une façon familière de nous parler. On connaît le fumée d'un four, mais en vérité ici c'est la plus puissant. Vayi kol ha'shofar, et ce fut la voix du shofar holech, il avance vers chazek mod, vient toujours plus et plus fort, toujours plus fort. 100 décibels, 22, 300, 400, 500 décibels, toujours plus fort et plus fort. Moshe yedaber, et Moshe parle à Hachem, et Elohim yanenu bekol, et Dieu lui répond avec la voix. Donc Moshe parle à Hachem, il dit Hachem, voilà, les Juifs ils sont là, je les ai amenés. Hachem dit d'accord, dit aux Juifs encore de s'éloigner de la Griage et Moshe discute avec Hachem, ils discutent ensemble, et les Juifs ils entendent. Et l'autre pshat, Moshe, d'abord, Moshe parlait aux Juifs, et le Kim et Dieu, Yanenu, il a renforcé la voix pour que Moshe, il peut en parler à tous les Juifs, il fallait un haut-parleur dans sa bouche. Pour que 600 000 personnes, 3 millions de gens, ils peuvent entendre, il faut qu'il ait dans sa bouche un haut-parleur. Moshe, d'abord, Moshe parlait, et le Kim et Dieu, Yanenu. Il lui a répondu, c'est-à-dire lui a est venu en aide, Bekol, avec la voix, Vayered Hashem al Har Sinai. Et Dieu est descendu sur la Har Sinai, et le Rochahar sur le sommet de la montagne. Dieu est descendu au sommet de la montagne. Vayekra Hashem le Moshe. Et Hashem, il a appelé Moshe. Il a appelé Moshe, et le Rochahar vers le sommet de la montagne. C'est-à-dire, il dit, Moshe monte maintenant. Et les Juifs, ils entendent. Dieu dit, Moshe, viens, monte chez moi. Voyez, al Moshe, Moshe, il est monté. Voyez, Omer Hashem et Moshe, Dieu dit à Moshe, les Juifs, ils entendent. Ils sont en bas, ils entendent tout. Voyez, Omer Hashem et Moshe, direct, descend. Une fois que Moshe, il est monté, Shabbat sur la montagne, Hashem, il dit à Moshe, red, descend. Ha'ed ba'am.
Il a fait monter et redescend directement.
Ouais. Non, pas directement. Attends, d'abord il dit quelque chose. Quand Moshe monte, il dirait, tu dois descendre. Pourquoi? Ha'ed, avertis le peuple. Il faut les avertir. Peine de peur, yeher soel Hashem. Ils vont enfoncer le grillage pour aller vers Dieu. L'irot pour voir. Peut-être ils voudront voir. Menafal mimenu raf. Et il va tomber du peuple juif beaucoup de gens comme ça.
Ils avaient déjà prévenu, Moshe.
Or, ça c'est la question de Rashi. Il les a déjà prévenus. Mais d'ici, on apprend, Rashi dit qu'il faut avertir deux fois. Avant et au moment. Avant, il faut dire aux gens, quand il arrive tel et tel moment, il faut faire attention de ne pas faire telle et telle chose. Et au moment de la chose, il faut le répéter.